Bonjour et bienvenue, 10h TU, 11h ici à Paris, le journal sur RFI.
Gilles Moreau.
Dans l'actualité, le sprint final dans la course à la Maison-Blanche avec toujours les fameux états pivots convoités par les deux candidats, Michigan, Pennsylvanie, Caroline du Nord ou bien encore la Géorgie où retourne aujourd'hui Donald Trump. De nouvelles fortes pluies sont annoncées dans le sud-est de l'Espagne, dévastées par des inondations meurtrières. Le roi Philippe et le premier ministre espagnol sont attendus sur place. Nouvelle journée de vote en Moldavie, 2 semaines après le référendum sur l'Europe. C'est aujourd'hui le second tour de la présidentielle. Maya Sandu, la présidente sortante, affronte un candidat soutenu par les socialistes pro-russes. À 2 jours du vote aux États-Unis, c'est la dernière ligne droite pour les deux prétendants à la Maison-Blanche. Kamala Harris retourne dans le Michigan pour son dernier dimanche de campagne. Donald Trump, lui, est attendu dans d'autres États cruciaux, Pennsylvanie, Géorgie et Caroline du Nord. Hier déjà en Caroline du Nord, Donald Trump a martelé son message habituel. Reportage de notre correspondant Guillaume Nodin.
Toutes les enquêtes d'opinion le montrent, la préoccupation numéro un des électeurs américains est l'économie et en particulier l'inflation. Donald Trump le sait, mais il sait aussi qu'il y a un sujet qui rassemble et motive encore plus son électorat, c'est l'immigration, et il promet d'y mettre fin très rapidement.
The United States is now an occupied country. Can you imagine having to say we're an occupied country?
Les États-Unis sont actuellement un pays occupé. Auriez-vous imaginé un jour que nous dirions que nous sommes un pays occupé? Mais bientôt, ce ne sera plus le cas. Le 5 novembre 2024, ce sera le jour de la libération en Amérique. Dès le premier jour, je lancerai le plus grand programme d'expulsion de criminels de l'histoire de notre pays. Ce seront les plus grandes expulsions de criminels. Nous allons les renvoyer d'ici rapidement. Je sauverai toutes les villes qui ont été envahies et conquises. Nous mettrons en prison les méchants, criminels, assoiffés de sang, ou nous les foutrons dehors une bonne fois pour toutes.
Aucune ville américaine n'est sous la domination de gangs criminels étrangers. Cela aussi, Donald Trump le sait, parce que cela a été démontré plusieurs fois. Mais il n'est pas homme à s'encombrer avec des détails et des faits, surtout à 3 jours d'une élection. Guillaume Nodin, Washington. RFI.
Et aux États-Unis, l'un des tout derniers sondages publiés hier soir a fait du bruit car il donne 3 points d'avance à Kamala Harris dans le petit état de l'Iowa, un fief républicain. Le roi Philippe et le premier ministre espagnol Pedro Sanchez sont attendus ce dimanche dans le sud-est de l'Espagne, là où les inondations cataclysmiques ont fait plus de 200 morts et semé la désolation, alors que de nouvelles fortes pluies sont attendues aujourd'hui. La gestion de la crise par les autorités soulevait hier la colère des habitants de Paiporta, l'une des communes de la banlieue de Valence les plus sinistrées. Reportage de notre envoyé spécial Pauline Glaise.
L'eau qui monte à toute vitesse, les coups de boutoir des voitures contre le mur de la maison et la crainte qu'ils ne tiennent pas le choc. Le souvenir de la soirée dantesque de Laura Cascales, c'est aussi cette alerte sur le téléphone. Les mobiles ont hurlé entre 20h et 21h. Trop tard.
À 21h,
il y avait presque 2 mètres d'eau chez moi. C'est une honte. Ils ne pouvaient pas alerter davantage. Je suis rentrée du travail. 1 minute de plus, un feu rouge, et je ne serais pas arrivée chez moi à temps. Je suis descendue de ma voiture et la police a crié « Le canal déborde, rentrez tous !» Bon Dieu, vous ne pouviez pas avertir avant ?
Indignation d'une alerte tardive et amertume de secours qui arrivent au compte-gouttes. Marissa Planeis est furieuse.
On a l'aide des voisins, des gens des alentours, mais on n'a aucune aide du gouvernement. Ma grand-mère ne peut pas sortir. Cela fait 4 jours qu'elle est bloquée à l'étage chez elle parce qu'ils n'ont pas pu nettoyer la rue.
Dans le centre-ville, des voitures de police et de la protection civile vont et viennent. Quelques véhicules de l'armée sont également arrivés, bien moins nombreux que les volontaires. Alejandro Delgado, 15 ans, les attend désespérément pour évacuer les décombres et la boue.
Hagan algo, por favor. Por favor.
Pauline Glaise, Paiporta, RFI.
C'est une nouvelle journée de vote en Moldavie, 2 semaines après la victoire sur le fil du oui au référendum sur l'Union européenne. Face à face ce dimanche au second tour de la présidentielle, la sortante Maya Sandu, pro-européenne, est arrivée largement tête au premier tour. Et Alexandre Stoyanoglu, ancien procureur soutenu par les socialistes pro-russes, les experts prédisent tous un score serré. Les rebelles houthis du Yémen sont en train de devenir une puissante organisation militaire. On le lit dans un rapport d'experts mandaté par l'ONU, soutenu par l'Iran. Les houthis s'inscrivent dans l'axe de la résistance, de même que le Hamas palestinien, le Hezbollah libanais et d'autres formations alliées de Téhéran, Nicolas Falaise.
La rébellion houthi du Yémen disposerait d'environ 350 000 combattants, soit 10 fois plus qu'il y a 10 ans. Le rapport remis cette semaine au Conseil de sécurité de l'ONU mentionne une vaste campagne de recrutement ainsi qu'un soutien sans précédent apporté aux houthis par leurs alliés. Soutien de l'Iran par l'intermédiaire de la force Al-Quds, des gardiens de la révolution, qui selon le rapport transfère matériel et assistance aux groupes rebelles yéménites. Soutien également du Hezbollah libanais, notamment pour la formation idéologique, l'assemblage des systèmes d'armement ou encore le financement. Le document des experts de l'ONU confirme donc la coopération entre ces acteurs régionaux. Les Houthis en ont bénéficié ces dernières années, consolidant leur emprise sur de vastes territoires au Yémen, malgré la campagne militaire lancée par l'Arabie Saoudite et ses alliés. Depuis un an, les Houthis du Yémen lancent drones et missiles en direction du territoire israélien et s'attaquent aussi à des navires en mer Rouge, au nom du soutien à la cause palestinienne.
Nicolas Falaise. Djibouti accueille actuellement une réunion ministérielle en présence de la Turquie et de 14 pays africains, dont l'Égypte, le Nigeria, la Mauritanie, le Tchad ou bien encore l'Angola. À l'ordre du jour, un point d'étape 3 ans après le dernier sommet Turquie-Afrique et 2 ans avant le prochain. Sur les enjeux de ce rendez-vous, l'analyse d'Elisa Dominguez dos Santos, chercheuse associée à l'IFRI.
Les enjeux économiques sont généralement les priorités de l'approfondissement des partenariats. Une autre priorité avait été établie, qui était le renforcement des partenariats dans le secteur de la sécurité. À l'issue de cette rencontre, il y aura un communiqué commun qui annoncera les nouvelles priorités qui seront mises en place jusqu'en 2026.
Est-ce qu'on sait pourquoi cette réunion-là se tient à Djibouti ?
Je pense que le lieu d'abord répond à une volonté d'alternance des géographies de ces rencontres. Après, d'un point de vue bilatéral, c'est pas tout à fait surprenant puisque la relation est assez développée entre la Turquie et Djibouti. C'est notamment avec les pays de la Corne que la Turquie a des relations particulièrement rapprochées. La Corne de l'Afrique est une région qui maintenant concentre d'importants intérêts commerciaux pour la Turquie, mais aussi des intérêts stratégiques et sécuritaires puisque la Corne de l'Afrique borde la mer Rouge, mais aussi l'océan Indien et que c'est devenu une région particulièrement stratégique pas seulement pour la Turquie, mais pour de nombreux acteurs extérieurs qui y ont des intérêts.
Elisa Dominguez dos Santos de l'Institut français des relations internationales, jointe au téléphone par Pierre Firsion. La grande conférence des Nations unies sur la biodiversité a maintenant pris fin à Cali, en Colombie, sur un constat décevant. La COP16 a échoué à financer et à stimuler les timides efforts de la communauté internationale pour cesser de détruire la nature. Retour sur cette nuit de fin de COP biodiversité avec notre envoyé spécial Lucide Gimbert.
Australia, are you awake?
Australie, êtes-vous réveillée?
Thank you.
La boutade de la présidente colombienne de la COP, la ministre de l'Environnement Susana Muhammad, alors que les négociations s'éternisaient au cours de la nuit. Après l'adoption d'une représentation permanente pour les peuples autochtones, source de célébration, des heures longues ont été nécessaires en plénière pour démêler les différends sur d'autres sujets. Finalement, la création d'un fonds pour récolter les contributions des entreprises, notamment pharmaceutiques et agroalimentaires, qui utilisent les données génétiques digitalisées de la nature. Cette création a été adoptée, mais au petit matin, de nombreux délégués ayant quitté la salle pour prendre leurs avions, vu le retard des discussions, la demande du Panama.
Je suis le dernier de ma délégation et j'ai un vol dans 3 heures. Alors je demande, s'il vous plaît, qu'on vérifie le quorum.
Va doucher les espoirs des pays africains, du Brésil et des petites îles du Pacifique de voir créer un nouveau fonds dédié à la biodiversité pour stopper la destruction de la nature. Il n'y a plus les 2/3 des délégués présents nécessaires pour que les décisions soient légitimes. Alors le sommet de Cali est suspendu. La faute à la présidence qui n'aura pas fait assez avancer les négociations avant la plénière, ou bien aux pays, notamment occidentaux, qui campaient sur leur position et ont fait traîner jusqu'à l'impasse. Sans doute un peu des deux. Lucille Gimbert, Cali, RFI.
Enfin, tennis au programme cet après-midi, la finale du tournoi de Paris-Bercy. L'Allemand Alexander Zverev, numéro 3 mondial, partira favori face au Français Hugo Humbert. Premier coup de raquette, 15h, 14h, temps universel. Bonne journée sur RFI. À suivre, Religion du monde autour de Véronique Guémard.